Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite bienvenue sur la saison 2 du podcast Le futur, c'est maintenant. Pour cette nouvelle saison, je vais aller à la rencontre d'acteurs majeurs en France, mobilisés pour l'éducation, l'insertion professionnelle et l'innovation RH. Un seul objectif, leur donner la parole le temps d'une heure pour faire rayonner leurs initiatives en faveur de l'emploi. Je m'appelle Paul Foutrel, je suis entrepreneur et cofondateur de l'entreprise Grim. Et comme vous le savez déjà, notre raison d'être, c'est de faciliter l'accès à l'emploi pour toutes et tous, avec un brin de technologie. Je vous souhaite évidemment une belle écoute. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Alexandrine, tu travailles à l'APEC.
Oui.
C'est quoi l'APEC du coup ?
Alors l'APEC, c'est une association qui a un mandat de service public. Et donc on a trois missions. La première qui est d'accompagner les cadres et jeunes diplômés à partir du bac plus 3 dans toutes les étapes de leur vie professionnelle, que ce soit la recherche du premier emploi, des projets de reconversion, de création d'entreprise ou d'envisager sa deuxième partie de carrière. Et on va en fait accompagner soit en individuel et ou en collectif, effectivement ces personnes, avec une intensité différente en fonction de leur parcours. On ne va pas avoir effectivement les mêmes accompagnements pour des profils qui sont par exemple en deuxième partie de carrière ou des jeunes diplômés ou des personnes issues des quartiers prioritaires de la ville. Voilà, on va adapter. Notre deuxième mission, elle est d'accompagner les entreprises et notamment les TPE et les PME, parce qu'on part du principe que c'est elles qui ont le plus besoin de nous, parce qu'elles ne sont pas forcément outillées, elles n'ont pas forcément de services RH, dans justement toute leur stratégie de recrutement, de marque employeur, de fidélisation de leurs collaborateurs. Parce que c'est bien de recruter, mais c'est bien aussi de garder ses collaborateurs en interne. Et vu que d'un côté, on a des cadres qui sont en recherche d'opportunités professionnelles, de l'autre, des entreprises qui sont en recherche de compétences, et bien on se fait se rencontrer des gens qui, sans nous, n'auraient peut-être pas eu l'occasion de se rencontrer.
Super.
Et notre troisième mission, qui est des fois un petit peu moins connue, c'est une mission d'observatoire, où on met à la disposition de tout le monde, donc soit des cadres, entreprises ou institutionnels, des études sur des sujets liés au travail et qui permettent effectivement de se donner un peu de visibilité sur le marché. Et comme nous avons un mandat de service public, tous nos services sont préfinancés et donc accessibles gratuitement pour tous les usagers, tous les utilisateurs.
Super, très pratique. Alors maintenant qu'on a présenté l'APEC, Alexandrine, est-ce que tu veux bien te présenter ?
Ouais, donc moi je suis Alexandrine Gross, je suis responsable de centre à l'APEC. J'ai rejoint l'équipe de l'APEC au mois de juin de l'année dernière, donc c'est assez récent. Et mon rôle est d'accompagner les équipes de consultants et de conseillers au quotidien dans leurs tâches sur les différents sites que nous avons en Pays de la Loire, à savoir Saint-Nazaire, Nantes, Angers et Le Mans.
Super. Et avant de préparer en préparant ce podcast, tu me disais avoir travaillé un petit peu dans l'éducation.
Oui.
Donc, je suis curieux d'en savoir un peu plus et peut-être nos auditeurs aussi.
Alors, j'ai travaillé plus de 10 ans, en fait, dans le secteur de la formation. J'y suis rentrée en tant que chargée de relations entreprises. Donc, mon rôle était d'accompagner des jeunes dans leur recherche d'alternance, notamment. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai pris une direction de campus. Et donc, du coup, j'ai pu diriger un campus pendant à peu près 6-7 ans, plutôt à la fin sur les métiers du numérique et du digital.
Et du coup, je suis curieux aussi de savoir ce que tu as pu faire comme études avant de te lancer dans le monde professionnel.
Une école de commerce. Ouais, je savais pas quoi faire. Ouais. J'ai fait l'école de commerce.
En alternance ?
En alternance, tout à fait.
À Nantes ?
Alors non, sur Angers.
Sur Angers, d'accord. Mmh. Et du coup, après cette expérience dans l'éducation, dans les écoles, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre l'APEC ? Est-ce que c'est la mission ? Est-ce que c'est les valeurs ? Est-ce que c'est le poste de responsable de... C'est responsable de centre, hein, c'est
ouais,
ça ?
C'est ça. Ouais. Un peu tout ça, en fait. Ça faisait 10 ans que j'étais dans le secteur de la formation. J'étais arrivée dans le secteur de la formation vraiment par hasard sur une rencontre un peu improbable. Et en fait, je me suis éclatée, parce qu'avant, j'étais commerciale dans l'informatique, donc rien à voir. Et j'ai découvert justement ce milieu de l'accompagnement que j'ai trouvé chouette. J'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir accompagner des jeunes entre, ils sortent du bac, ils ne savent pas forcément vers quoi ils ont envie d'aller, et de les voir après en tant que jeunes diplômés et s'éclater dans leur vie professionnelle, et finalement de contribuer un peu à cette recherche de sens ou en tout cas d'objectifs professionnels. J'ai trouvé ça chouette. Donc ça, j'avais envie de le garder. Pour autant, j'avais envie de découvrir aussi un autre secteur, parce que je pense que l'accompagnement, bien évidemment, la formation et l'éducation, c'est hyper important parce que c'est la base. Mais la vie professionnelle fait qu'il y a aussi d'autres étapes sur lesquelles on a besoin d'être accompagné. Donc ça faisait bien sens, effectivement, avec l'APEC. Et le fait, effectivement, d'être sur un mandat de service public, on a cette possibilité aussi de pouvoir s'occuper des personnes qui ont le plus besoin de nous. Mmh. Donc, en termes de sens, c'est mmh. quand même un mot.
Tu me parlais d'ailleurs tout à l'heure en préparation du podcast de l'emploi des seniors. Ouais. Vous lancez pas mal d'initiatives à ce sujet, si je ne me trompe pas.
Oui.
Tu peux m'en dire un peu plus ?
Ouais. En fait, c'est un secret pour personne. Hein. L'âge de départ en retraite est reculé. La population française est vieillissante, donc il y a de plus en plus de seniors sur le marché de l'emploi, et notamment des seniors qui ont du mal, effectivement, à retrouver un job. On a aussi pas mal de cadres qui, en milieu de carrière, ont aussi envie de changer de métier, ont envie de se reconvertir, ont justement envie d'aller des fois vers des métiers avec plus de sens ou des métiers plus verts, voilà, aussi pour suivre un peu la mutation de la société. Et sauf qu'aujourd'hui, cette catégorie de la population peut rencontrer effectivement un peu plus de difficultés à retrouver le marché de l'emploi, alors que de l'autre côté, on a des entreprises qui ont des difficultés à recruter. Mmh. Donc voilà, l'idée, c'est de faire en sorte que... d'aider les entreprises, entre guillemets, à faire le pas de côté, en tout cas pour celles qui ne l'ont pas encore fait, de faire le pas de côté pour pouvoir effectivement aller chercher ce vivier qui est à disposition, mmh. et puis permettre aussi aux cadres qui envisagent leur deuxième partie de carrière de pouvoir aussi construire leur projet professionnel en lien avec leur motivation et s'ils ont envie de vivre.
C'est une question du coup un peu bateau, mais comment on devient cadre en entreprise ? On est salarié, on peut passer cadre, t'en sais un peu plus que moi sur ce sujet ?
Alors, comment on peut être cadre ?
Parce que moi, je le vois sur les bulletins de paie ou quand je gère tous ces petits sujets-là, ouais. mais je ne suis pas plus un expert.
C'est ce que j'allais
d'ailleurs,
dire.
D'ailleurs, je ne suis même pas cadre dans... Je n'ai jamais été cadre, je
crois. C'est vrai ? Ouais. C'est quoi ton statut ?
Moi, je crois que je suis mandataire social, si je ne me trompe pas. C'est différent, du coup.
Ouais, c'est différent.
Tu vois, je ne suis vraiment pas un expert. Moi, je suis curieux de savoir comment on devient cadre et quels sont les avantages, les inconvénients. Est-ce que c'est un sujet que tu maîtrises, sur lequel tu peux nous en dire un peu plus ?
En fait, tu as le cadre... d'un point de vue administratif. Mmh. Et donc là, effectivement, c'est ton statut et c'est sur ton bulletin de paye. Et du coup, quand tu es cadre, tu vas effectivement avoir des cotisations un petit peu différentes, même si aujourd'hui, franchement, la différence de cotisation entre cadre et non-cadre, elle est plus très importante.
D'accord.
Et notamment, l'une des différences, c'est que du coup, dès que tu es cadre, même si c'est qu'un jour dans ta vie, tu peux bénéficier des services de l'APEC.
Ok.
Donc ça va être effectivement la différence. Après, il y a plein de salariés en France qui ne sont pas cadres sur mmh. papier, mais qui pour autant ont des missions de cadre.
D'accord.
Ça va dépendre vraiment du niveau de responsabilité, du périmètre d'action. Après, certaines personnes attachent beaucoup d'importance au statut, d'autres beaucoup moins. Donc ça, c'est très personnel.
Donc si je fais le lien avec l'APEC, on doit être cadre pour passer les portes de l'APEC et être accompagné par la structure.
Alors, on doit avoir été cadre au moins une fois dans sa vie.
C'est ce que tu disais tout à l'heure.
Ou jeune diplômé à partir du bac plus 3. Les jeunes diplômés ne sont pas encore cadres, ils n'ont pas encore travaillé pour certains.
Ouais.
Et pour autant, dès qu'ils ont validé effectivement un niveau bac plus 3, ils peuvent pousser les portes de la PEC et ils sont au contraire les bienvenus.
Et c'est un sujet qui m'intéresse du coup sur la partie jeunes diplômés dans les écoles. Vous avez des relations avec les écoles.
Ouais.
Et comment vous les accueillez, ces jeunes diplômés ? Comment vous les aidez ?
Alors, en fait, on les aide déjà pour les outiller.
Mmh.
Truc tout bête, hein, mais comment on fait un CV, comment je pitch mon projet, comment je mène un entretien de recrutement, mais ça peut être aussi comment j'y vois plus clair, parce que quand on est jeune diplômé, c'est bien, on a un diplôme en poche, on a appris plein de choses à l'école, mais ça ne nous dit pas quel métier on va faire.
Mmh.
Donc des fois, ils ont besoin aussi d'être accompagnés pour prendre du recul. Et l'avantage, effectivement, avec les services de l'APEC, c'est que c'est un discours qui est neutre. On n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont à faire.
Vous n'êtes pas conseiller d'orientation.
Pas du tout.
Ouais.
Mais en fait, on leur ouvre des portes, on leur donne les moyens d'agir. Mmh. Après, effectivement, à eux d'agir. Et on leur propose aussi de rencontrer des entreprises, parce que des fois, quand on est jeune, c'est ça qui peut être compliqué.
Ouais.
Parce qu'on n'a pas le réseau, on ne sait pas qui appeler, on ne sait pas comment rencontrer le marché de l'emploi. Et donc, on organise notamment des événements focus
Génial.
Pour les jeunes diplômés, pour leur permettre de rencontrer des boîtes qui recrutent.
Donc, c'est ce qu'on appelle des job dating ou des forums rencontres entreprises.
C'est ça.
Ouais, ok. Et du coup, tes équipes font un peu de coaching, j'imagine, ou comment ça se matérialise, cet accompagnement ?
Alors, c'est pas du coaching.
Non, du coup, c'est pas du coaching.
Non, c'est pas du coaching, c'est vraiment de l'accompagnement, soit collectif, soit individuel.
D'accord.
Et en fait, on va aller... Souvent, comment je résume le métier, c'est qu'on est là pour éclairer les cadres et les jeunes diplômés qu'on rencontre. On ne va jamais leur dire ce qu'ils ont à faire.
Mm-hmm.
C'est bien évidemment à eux d'être acteurs, mais pour être acteurs, il faut qu'ils soient outillés.
Mm-hmm.
Donc, on leur donne un peu la boîte à outils. Et puis, eux, après, de constituer un peu leur parcours et d'aller piocher en fonction aussi de leurs besoins.
Donc, c'est des outils qu'on peut retrouver sur le site de l'APEC.
Oui.
Y a une boîte à outils, mais il y a aussi les offres.
Oui.
Il y a énormément d'offres aujourd'hui disponibles sur l'APEC, qu'on retrouve peut-être sur le site de France Travail. Certaines sont... peut-être diffuser un
certaines
peu...
Certaines peuvent être multidiffusées, exactement, mais effectivement pas toutes. Ouais. Enfin, notre site apec.fr, c'est notre premier outil de mise en relation, puisque dès qu'on se crée un compte sur apec.fr, et tout l'intérêt de bien compléter son compte apec.fr, et pour ça, il y a des ateliers, justement, où on explique au cadre comment bien compléter ce compte. Quand une entreprise va diffuser une offre, il y a un matching qui va être fait. Et donc, on va proposer à l'entreprise le top 5 ou le top 10 des profils qui correspondent le mieux à l'offre de poste. Et donc, rien que ça, déjà, ça permet effectivement de faire de la mise en relation. Mmh. Ça permet effectivement aussi d'avoir accès à plein d'offres d'emploi et des outils. Par exemple, on a un outil qui est souvent très utilisé pour avoir la visibilité des rémunérations moyennes proposées sur des postes équivalents. Ce qui permet, quand on prépare un entretien de recrutement, par exemple, de se donner un peu une idée. Mm-hmm. Je ne sais pas, moi, demain, je vais être chargée de marketing dans une boîte dans l'IT.
Mm-hmm. À Nantes, par exemple.
À Nantes. Ouais. Hop, je vais sur le site. Et puis, je peux effectivement comparer globalement les personnes qui ont occupé le même poste, sur quel type de rémunération ils étaient.
Donc, ces outils-là, ils ont été construits avec des équipes de développeurs, de chercheurs. Enfin, c'est des choses assez complètes, j'imagine, puisque tu parles de matching. Il y a peut-être un peu même d'intelligence artificielle, de machine learning. C'est pas juste un système d'étoiles et hop là, non, c'est quelque chose d'assez poussé, j'imagine.
Oui, et puis on a énormément de data.
Ouais.
Et notamment notre service études, on gère beaucoup. Et c'est ce qui nous permet de donner aussi de la visibilité de marché, de dire sur 2023, le recrutement, comment il s'est comporté, quelles sont les projections sur 2024. On a vraiment ce rôle d'observatoire et de perspective. Qui peuvent être riches quand on recherche un emploi. Ça permet aussi de se dire, globalement, les gens qu'occupent tel poste, ils ont passé tel diplôme, ils ont occupé tel poste avant, ils ont occupé tel poste après. Donc ça permet aussi de construire un peu sa trajectoire professionnelle.
Et t'en parlais rapidement tout à l'heure, mais moi, je ne le connaissais pas forcément avant de pousser la porte de l'APEC, mais on a effectivement accès à un site où on peut télécharger toutes ces études. Enfin, c'est en libre accès.
Oui.
Tu peux redonner l'URL, est-ce que tu le connais par cœur?
C'est APEC Corporate.
apeccorporate.fr.
Oui.
Ok.
Et sur ce site, effectivement, on a accès à toutes les études qu'on sort. Tout à l'heure, on parlait des jeunes. Par exemple, on a fait effectivement une étude sur la place des jeunes effectivement dans le marché de l'emploi. Là, on en a sorti une récemment sur le télétravail. On va bientôt sortir le panel. C'est en fait une grosse étude vraiment. Bilan des recrutements de l'année 2023, projection sur 2024 avec les tendances suite à des interviews qu'on a faites avec beaucoup d'entreprises par secteur géographique, vraiment pour sentir le marché.
Super. Donc ça, c'est en libre accès. On peut tous progresser, découvrir de nouvelles choses et peut-être enrichir même son marketing, sa veille. C'est assez puissant.
Ouais.
Tu parlais des entreprises. Les entreprises peuvent se créer aussi un compte sur le site de l'APEC pour gagner en visibilité, diffuser des annonces, j'imagine.
Oui.
Vous les accompagnez également?
Tout à fait. Elles peuvent diffuser des annonces, elles peuvent avoir une page entreprise.
Ouais.
Elles peuvent même être accompagnées par nos équipes entreprises pour les aider à rédiger leur offre d'emploi, pour les aider à faire de la présélection de profils, les aider vraiment dans leur stratégie de recrutement avec effectivement un focus plus sur les PME-TPE.
Ok. Donc les grands groupes peuvent quand même y accéder, mais c'est plutôt pour essayer de fluidifier le recrutement pour les TPE-PME qui n'ont pas forcément les budgets pour se payer des agences de recrutement, pour aller sur des gros job boards, dépenser des milliers d'euros, par exemple.
On est là pour aider ceux qu'on a le plus besoin.
Ok, super. Et même les petites startups comme Grim, par exemple.
Oui, okay. Tout à fait.
Donc on a parlé...
T'as un compte sur APEC.fr?
J'ai un compte. Et alors, je ne sais pas si je dois le balancer là, mais j'ai eu du mal à finir ma page entreprise. J'ai tourné en boucle pour la valider, l'enregistrer, la mettre à jour. Et je crois que j'ai ouvert un ticket au support. Et c'est quelque chose qu'il faut que je regarde de plus près, ouais.
Ça marche, ouais. On pourra regarder après.
On pourra regarder après. Mais en tout cas, non, j'ai vu que le site était très complet. Et d'ailleurs, ce qui est super, c'est qu'on est en train de valider un partenariat pour récupérer un flux d'offres de l'APEC dans Grimp à destination de nos 60 000 candidats. Donc, on a hâte de voir ce que ça donne. Mm. Et ça, c'est grâce au programme Startup Shaker qu'on a rejoint, petit clin d'œil, avec l'entreprise Grimp. Nous, on travaille pas mal avec les écoles, donc c'est une population que je connais bien. Vous avez aussi des relations avec les écoles, vous nouez des partenariats avec les écoles. Mmh. Alors parfois, c'est des partenariats un peu officiels, tu me le disais tout à l'heure, avec des conventions que vous mettez en place. Et parfois, c'est en bonne intelligence. Mmh. Comment ça se présente? Comment tu accueilles des écoles? Est-ce que vous allez démarcher des écoles pour créer des partenariats? Tu peux m'en
Alors, c'est pas vraiment du démarchage, mais effectivement, vu que nos services sont accessibles à tous les jeunes diplômés à partir du bac plus 3, on intervient régulièrement dans des écoles de la région pour donner les clés en fait à leurs étudiants et ou étudiantes pour les aider à s'outiller dans leur recherche d'emploi ou d'alternance, à mieux utiliser aussi nos outils. Puis on va avoir une approche différente aussi forcément en fonction de leur filière. Typiquement, on ne va pas s'adresser de la même manière à une promotion en ressources humaines. On va leur donner aussi un peu la vision entreprise qu'à une promotion, je ne sais pas, par exemple dans le commerce, qui vont avoir une utilisation vraiment pour leur recherche d'emploi.
Est-ce que vous discutez avec les lycées ou c'est encore trop tôt?
Non, on ne discute pas avec les lycées, parce qu'on est vraiment effectivement à partir du bac plus 3. Avant, il y a d'autres organismes, comme les missions locales, les maisons de l'emploi, qui vont effectivement plutôt prendre le relais.
Super, ça fait pas mal de sujets là qu'on a évoqués. On a été assez efficaces. Ce qui te plaît le plus dans ton métier, c'est quoi du coup, Alexandrine?
C'est de voir les belles rencontres qu'on arrive à créer grâce effectivement que ce soit aux entreprises ou aux cadres qu'on accompagne. Et on a souvent des belles histoires à raconter et ça c'est chouette.
Le podcast s'appelle Le futur c'est maintenant. Ça t'inspire, ça t'évoque quelque chose?
Ça m'évoque l'expo immersive qu'on a accueilli là pendant 3 jours sur justement le futur du travail. Quelles seront les tendances du travail en 2030? Alors, on ne déclare pas détenir la vérité, mais en tout cas, on a identifié 14 tendances qui nous paraissent assez prédominantes dans le monde du travail et qui pourraient faire un peu bouger les lignes. Et donc, on a voulu en faire profiter justement les cadres, les entreprises, les institutionnels de la région pour pouvoir s'imprégner de ces tendances et de le prendre en compte, que ce soit dans la stratégie RH, dans la stratégie de formation, de recrutement, puisque c'est le changement du monde du travail et le changement de la société plus globalement aura forcément un impact sur nos métiers, sur les compétences.
Et toi, est-ce que tu es en direct avec du coup des candidats, des recruteurs, ou c'est plutôt t'es plutôt sur la partie management des équipes dans ton quotidien? Ça se passe comment?
Ouais, moi je suis plus sur la partie management. Après, j'aime bien être en contact bien évidemment avec les cadres et les entreprises, donc je sors souvent de mon bureau pour pouvoir échanger, interagir avec nos différents clients.
Et t'es pas uniquement sur Nantes?
Et non, je voyage entre Saint-Nazaire, Nantes, Angers et Le Mans.
Et comment vous êtes structuré? Combien de collaborateurs du coup dans ces centres APEC? On appelle ça des centres ou des bureaux?
Des centres. On est une petite quarantaine sur la région. Alors même si le gros des troupes est sur Nantes, parce que l'emploi cadre se situe principalement sur Nantes. Et après, le reste des équipes est réparti sur les centres en fonction des territoires et de leur taille.
Tu me parlais tout à l'heure des tendances, des études. Est-ce qu'en 2024, toi, tu observes quelque chose? Est-ce que tu observes des choses sur un certain changement du marché du travail? Est-ce que tu as des choses qui t'interpellent? C'est une question improvisée, je te le cache pas.
De changement, peut-être pas. En tout cas, on a des enjeux. Je pense qu'on en a deux. C'est un, comment j'intègre l'intelligence artificielle?
J'y pensais aussi, tu vois.
Et ça, c'est dans tous les domaines, que ce soit dans la recherche d'emploi, mais aussi dans la recherche de candidats, dans la fidélisation, dans les ressources humaines. Enfin, ça aura forcément un impact sur ces métiers-là, mais pas que, enfin, sur tous les métiers. Donc, c'est comment je l'intègre, comment je me l'approprie plutôt que de le subir. Et le deuxième enjeu, c'est la transition environnementale.
De plus en plus sensible à la planète, à l'impact.
Oui, et puis je pense qu'on est dans une terre qui est très propice à ça. Enfin, les Pays de la Loire, on est assez avancé sur le sujet. On a plein d'entreprises sur le secteur, effectivement, qui recherchent des compétences. On a des centres de formation qui sont implantés aussi sur notre territoire, justement pour répondre à ces besoins de compétences. Et on voit bien dans les cadres qu'on accompagne, le sujet de la transition environnementale et écologique est de plus en plus prégnante. Ça devient même un choix dans la sélection de sa future entreprise.
Ouais, c'est un critère comme par exemple le salaire, ça fait partie de la fiche de poste presque.
Tout à fait, et ça devient de plus en plus prégnant. Donc pour moi, nos deux enjeux pour 2024, effectivement, c'est bien sûr.
Et sur l'IA, tu as une opinion toi? Parce que je sais que, tu vois, par exemple, nous sur Grimp, on permet aux candidats de piloter leur recherche d'emploi, d'organiser toute leur candidature, alors qu'ils aillent sur l'APEC, France Travail, Hello Work et différents job boards. Et on a refusé mettre de l'IA sur « je rédige ma candidature » pour laisser le candidat faire l'effort de faire sa candidature un peu réelle, tu vois ce que je veux dire. Et par contre, on a laissé de l'IA pour aider à formuler son projet professionnel pour éviter le syndrome de la page blanche. Tu vois, on y réfléchit fortement, mais on essaie de faire ça avec parcimonie parce que je pense que voilà, ça peut être un compagnon versus... quelqu'un qui va candidater, postuler à ta place. Vous en avez déjà parlé un peu en interne, même, je ne sais pas, au national. Est-ce qu'il y a des sujets liés à l'IA ?
Oui, c'est forcément un sujet sur lequel on s'est emparé. D'ailleurs, dans l'expo immersive, c'est l'une des salles. Et sur ce sujet, bien évidemment, on se doit de s'emparer de ce sujet. C'est juste indispensable, enfin, ça sert à rien de se dire non, ça n'aura pas d'impact sur mon métier, ça en aura forcément. Mais après, je suis d'accord avec toi, c'est effectivement, c'est important de réfléchir à comment j'utilise, dans quel degré d'implication, parce que l'IA ne sera pas la réponse à tout, bien évidemment. Et c'est important que ce soit plus un soutien dans l'action.
Toi, tu l'utilises au quotidien ?
Pas au quotidien,
non. Non.
Ça m'arrive d'y aller, mais pas au quotidien.
Ouais, moi, c'est pareil. Tout pareil, pas trop, pas tant que ça. Mes équipes, pas mal.
C'est vrai.
Sur la partie marketing, même, tu vois, quand on doit rédiger des articles de blog, on essaie de faire des fois des articles sur comment aider les candidats, comment aider les recruteurs. Mais c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, je trouve que c'est pas mal pour éviter un peu le syndrome de la page blanche, pour se donner des idées. Et parfois, tu vois, on a recruté un peu là, ces derniers mois, et je recevais des candidatures, des lettres de motivation ou des messages de candidature. Et je m'amusais à demander à ChatGPT, est-ce que c'est toi qui l'as rédigé. j'en ai grillé 2-3 comme
c'est
ça.
Vrai, ouais.
Mais on le sent quand même, on le voit, on s'en rend compte.
Oui, mais c'est comme quand j'étais avant dans le secteur de la formation, quand tu recevais des rapports de stage ou d'alternance, tu voyais les pages qui étaient faites en ChatGPT et celles qui étaient écrites de la main de la personne parce que bah, d'un coup, il n'y a plus de faute d'orthographe, les formulations de phrases ne sont pas les mêmes.
Ouais.
Ça a effectivement pas la même profondeur.
Et en parlant de ce secteur de la formation, là, je pense que ça a été assez fluide, finalement, ta transition entre travailler dans une école, travailler à l'APEC. L'ADN, il est plus ou moins le même. Tu as toujours une appétence, je pense, pour la pédagogie, le travail en équipe, l'accompagnement. C'est quoi les enseignements que tu tires de tout ça, de ce parcours professionnel avant d'arriver à l'APEC?
Ce que j'en retire, c'est que une carrière professionnelle, elle est faite de rencontres.
Ouais.
Enfin, clairement, quand j'ai fait mes études, si on m'avait dit le parcours que j'allais avoir, j'aurais pas forcément cru, ou en tout cas, ça m'aurait peut-être pas traversé l'esprit. Donc ouais, moi, je crois beaucoup à la rencontre, à l'opportunité, qu'il faut pas se fermer de porte, et que ça permet effectivement de se construire. Enfin. La première mission en alternance que j'ai acceptée, je suis allée à l'entretien en me disant « Tu vois, je veux pas ce poste.
Ouais. »
Et je l'ai eu.
Ouais.
Bon, j'y suis allée parce que globalement...
Par curiosité.
Ouais, et puis j'avais pas grand-chose d'autre.
Oui, puis il fallait.
et en même temps, c'est aussi grâce à ça que je suis allée dans ma première expérience, après dans ma seconde et dans ma troisième. Finalement, il y a toujours eu un lien, ou en tout cas un marqueur commun, et ce qui me permet d'être là
aujourd'hui. Du coup, t'as gardé un super réseau, j'imagine. Quand même.
Ouais, ça va.
Ouais. Okay. T'as gardé des camarades de... J'ai fait aussi une école de commerce.
Ouais. T'as fait laquelle ?
Moi, j'ai fait... du coup, j'ai fait l'IDRAC. Ensuite, j'ai fait l'ESSEN à Paris. Ouais. Et puis, avec un échange à Singapour et à San Francisco. Même en passant par l'Irlande et l'Espagne. J'ai pas mal, pas mal voyagé. Et du coup, j'ai fait pas mal de rencontres aussi. Ouais. C'est dur de garder le lien avec le petit réseau qu'on se construit. Ouais. Mais aujourd'hui, dans le monde professionnel, ça m'arrive de croiser d'anciens camarades de promo. Et je trouve que c'est très puissant. Et dès le plus jeune âge, même à l'école, de créer du réseau. Et son premier réseau professionnel, finalement, c'est un peu ses camarades de classe. Ouais.
Et puis ça marche même avec des gens que tu connais pas. Mais finalement, tiens, on a fait la même école, est-ce qu'on peut se parler?
Ouais. Hop, ouais, c'est plus facile.
Ça aide. Et tu vois, pour la petite histoire, dans la promo Startup Shaker, il y a un autre diplômé de la même école que moi et on a bossé pour le même employeur.
Parce que toi, t'as fait quelle école?
Donc, tu vois, le monde est petit. J'ai fait l'IFAG.
L'IFAG, ok.
Qui est le même groupe de l'IDREC.
Ok, compétences et développement.
Ouais.
Super. J'ai rencontré du coup Thomas sur un épisode de la saison 1. Thomas Legrain, le directeur. Ouais. C'est top. Bah écoute, on a pas mal échangé. Est-ce que t'as des conseils, toi, que tu voudrais donner à des cadres, à des jeunes diplômés, à des personnes en recherche d'emploi? Est-ce que toi, tu recrutes à l'APEC?
Ça nous arrive.
Ouais, ouais. Comment ça se passe?
Généralement, on diffuse nos offres sur nos outils.
Ouais.
Et puis après, on fait des rencontres avec, avec les candidats ou les candidates. Et puis nous, on a la chance d'avoir un méga vivier à disposition où on rencontre des cadres tout le temps. Donc c'est vrai que nos consultants, dès qu'on a un poste ouvert, ils nous disent « Ah tiens, je pense à un tel que j'ai rencontré ou un tel
que j'ai c'est important, vu. Vous utilisez vos propres outils.
Bah ouais, tant qu'à faire.
Et qu'est-ce qui fait la différence du coup si tu devais donner un conseil à un candidat? J'aime bien collecter un peu comme ça de valeur sur les bonnes pratiques pour la recherche d'emploi.
Bah déjà d'être au clair sur son projet professionnel
et
de préparer ses entretiens.
Ouais, comme on fait ses devoirs.
Ouais, mais...
on prépare son rendez-vous.
On voit la différence.
Ouais, c'est clair. On prépare son rendez-vous et moi, un conseil que je donne souvent, c'est ne serait-ce que de préparer 3 questions ouvertes au recruteur. Ça permet aussi de passer la balle. Si on stresse un peu, ben voilà, on pose une question ouverte, ça ouvre l'échange. Par exemple, comment va se passer ma période d'intégration quand on cherche une alternance? Comme ça, on se projette. Et puis, qu'est-ce qui fait que vous m'avez retenu, monsieur le recruteur, aujourd'hui? Comme ça, on comprend ce qui marche sur le CV ou pas.
Ouais.
Plein de petites astuces comme ça.
Et souvent, le conseil que je donnais sur des personnes qui étaient un peu stressées sur l'exercice de l'entretien, si vous sentez que vous perdez pied, dites-le à votre interlocuteur.
Ouais.
Parce que déjà, ça va tout de suite redescendre la pression et ça ne peut que développer de la bienveillance vis-à-vis de l'interlocuteur en disant bon, c'est bon, la personne est déjà stressée, je vais pas trop le titiller.
Eh ben écoute, hyper intéressant, petite astuce. Comment toi tu fais ta veille? Comment tu progresses? Comment tu continues de te former au quotidien à l'APEC? T'as des routines?
Ouais, alors déjà on a la chance de faire partie d'un réseau où enfin c'est fondamental la veille, la formation, donc on a à disposition déjà plein d'outils, notamment des outils d'échange en interne. Pour développer ses connaissances.
Ouais.
Après, forcément, c'est lire des articles. Je passe pas mal de temps sur LinkedIn. C'est quand même un bon outil, je trouve, pour avoir mal d'infos. Même si des fois, ça peut être un peu biaisé parce que très en lien avec les personnes qu'on connaît et notre environnement.
Ah, l'algorithme, on ne le connaît pas trop.
ce qui est intéressant, c'est aussi de démultiplier les sources.
Mm-hmm.
Et on a la chance, en plus, sur Nantes, d'avoir... quand même une programmation événementielle assez riche pour ça, donc faut sortir.
Faut sortir, faire des rencontres.
Ouais.
On termine sur les 3 missions de l'APEC que tu peux nous rappeler. Je crois que tu les connais par cœur.
Ouais, tout à fait. Donc la première, c'est d'accompagner les cadres et les jeunes diplômés dans toutes les étapes de leur vie professionnelle. La deuxième, c'est d'accompagner les entreprises et plus particulièrement les TPE et les PME dans leur recrutement et dans la fidélisation de leurs collaborateurs.
Mmh.
Et la troisième, qui est une mission d'observatoire pour donner... la visibilité, effectivement, au cadre, aux entreprises et aux institutionnels.
Eh bien, super. Merci beaucoup pour cet échange.
Merci à toi.
Si vous êtes encore là avec moi, c'est que l'épisode vous a plu. Alors, merci. Et si vous souhaitez m'encourager pour la suite et faire connaître le podcast, vous pouvez mettre une note avec 5 étoiles, le partager à votre entourage, et ça nous permettra ensemble d'inspirer un maximum de personnes. À bientôt.